C'est l'heure de vos informations locales et régionales. Félix-Antoine, nos amis sont en train de décorer, vont mettre ça beau pour le temps des fêtes. Guétin et Coriane qui sont dehors.
Mm-hmm. Ben oui. Écoute,
manque juste la neige.
C'est ce qu'on se disait tantôt.
Mais là, avant que la neige arrive, on fait ça. La neige arrive jeudi dans la soirée, puis vendredi.
Ah ouais? Ouais. Beaucoup de neige?
5 à 10 cm pour vendredi.
OK.
Ça va payer ton déneigeur.
On sortait les bottes.
Oui,
ouais,
on
c'est ça.
Les bottes.
Le déneigeur va venir.
Oui, c'est ça.
En train de dire,
on va être en
table
dans deux affaires.
Ça coûte cher à date, là. J'ai payé, là. Ça fait
y a
deux
pas
semaines.
De neige.
Puis, trois, même pas, ça fait trois semaines, puis il n'est pas venu une fois, mais il n'y a pas neigé.
On se prendra pas là-dessus.
Ah non, c'est ça.
Et parlant de chez toi, Festival du livre de Messine remporte un succès monstre.
L'École Sainte-Croix de Messine a récemment tenu son traditionnel Festival du livre scolastique, une campagne de financement qui permet de garder à jour la collection de l'école. L'édition 2021 aura été particulièrement payante alors que les ventes de livres se sont chiffrées à environ 3 500 $. Ce succès permet à l'école, en étroite collaboration avec la municipalité de Messine, d'obtenir une remise de près de 2 100 $ pour l'achat de livres. Nadia Galipo, elle est enseignante en première année à l'École Sainte-Croix. Elle explique le déroulement du Festival du livre.
Ça avait lieu à la salle municipale, de venir acheter des livres. Il y avait aussi un volet virtuel cette année, donc ça offrait la possibilité de faire des achats en ligne. Il y a un calcul des ventes complètes qui est fait à la fin. Et il y a une remise qui est donnée en retour qui pouvait être réinvestie au niveau de l'achat de livres.
Ce montant a permis à l'école de se procurer environ 150 nouveaux livres, dont des bandes dessinées, des romans et des biographies notamment. En plus de cet ajout important à la collection de livres de l'école, Mme Galipo mentionne qu'un projet de réaménagement de la bibliothèque scolaire est aussi prévu cette année.
Et la ville de Maniwaki bien souhaite installer là, un bloc d'escalade au site des Trois Clochers.
La ville de Maniwaki envisage de faire l'acquisition d'un bloc d'escalade qui sera par la suite aménagé au site des Trois Clochers. Une demande de subvention a été envoyée afin de procéder à l'achat de cette structure. Ce projet sera réalisé seulement si la demande de subvention est acceptée. La mairesse de Maniwaki, Francine Fortin, mentionne que beaucoup de nouveautés ont fait leur arrivée sur le site des Trois Clochers dans les dernières années et que la ville compte poursuivre les ajouts sur ce site lors de la prochaine année.
On a un joyau en plein centre-ville, la ville de Maniwaki. Dans le premier mandat, on avait dit installation d'un skatepark, d'un jeu d'eau, on l'a fait. On a repris les activités du golf en projet pilote. On a un plan d'aménagement pour le Trois Clochers, mais il est pas public. On fait des demandes partout où ce qu'on peut. On verra à ce moment-là quand on aura la réponse des demandes.
La valeur totale de ce bloc d'escalade s'élève à près de 90 000 $. Madame Fortin souhaitait que l'installation soit faite pendant l'été prochain. Aucun détail supplémentaire concernant la structure n'a été dévoilé. La ville fera part là, des caractéristiques de ce bloc d'escalade en temps et lieu.
Et on parle du budget 2022 et sans grande surprise là, qui sera déposé du côté de Denham.
Oui, c'est le 15 novembre prochain que sera déposé, présenté et adopté le budget, les prévisions budgétaires pour l'année 2022. Dans une petite municipalité, les subventions sont toujours indispensables à la réalisation de projets. Gaétan Guindon nous explique donc certains dossiers qui bénéficieront ou qui devront en fait bénéficier d'un soutien financier gouvernemental.
On est toujours en demande là, pour des subventions pour de la réparation de chemin l'année prochaine. On va regarder pour la station du service des incendies. Alors, on est toujours en mode très actif.
Donc, c'est le 15 décembre, je ne sais pas si j'avais dit novembre, là, mais c'est bien le 15 décembre que sera adoptées les prévisions budgétaires. Pour plusieurs postes budgétaires, d'ailleurs, qui sont à considérer là, lors du dépôt du budget, Gaétan Guindon nous explique les orientations choisies par le conseil municipal de Denham.
Ça va être à peu près la même orientation des dernières années. On espère de ne pas être obligé d'avoir une hausse de taxes. On pense qu'on devrait être en mesure de garder ça. Et dans une petite municipalité comme la nôtre, là, une fois qu'on a mis ensemble les frais fixes, c'est-à-dire les salaires, les camions, la voirie, les pompiers, il ne reste plus grand-chose, là.
Le taux de la taxe foncière générale a été établi à 1,07 $ par tranche de 100 $ d'évaluation foncière l'an dernier. Les revenus des taxes foncières étaient là de 1,195,186 $ là, en 2021. Donc, ce sera à suivre pour l'année à venir.
Effectivement. Félix, parle-nous de ton émission L'heure juste aujourd'hui.
On va recevoir à l'émission, là, juste aujourd'hui, la députée, en fait, deux députées. Mm-hmm. La députée de Pontiac, Sophie Châtel, pour nous parler de son plan pour un Pontiac vert et prospère. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va se mettre en branle? En fait, c'est grosso modo, c'est de dire on a des défis, des cibles à atteindre au niveau des changements climatiques et on est en reprise post-économique, post-pandémique. Donc, on pourrait profiter de cette relance pour revoir un peu notre modèle d'affaires pour s'aligner vers pour atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. Et j'arrête pas de le dire, mais c'est ce qu'on me dit. C'est au niveau de la taxe sur le carbone d'ici 2030 qui va être appliquée, qui va vraiment, vraiment, vraiment avoir des impacts chez nous. Parce que là, on parle d'une augmentation du tout ce qui est les carburants fossiles, mm-hmm. donc l'essence, le diesel. On parle d'à peu près 40 sous le litre de plus d'ici 2030, ce qui a un effet sur tout ce qui est transporté par camion, finalement. Ouais. Mm-hmm. Fait que c'est le bois, c'est la nourriture, c'est les vêtements, c'est tout. Fait que les produits devraient augmenter nécessairement. Fait que si on veut pas subir cette transition qui nécessite, tu sais, la taxe, c'est pour inciter les gens, la taxe sur le carbone, c'est pour inciter les gens à justement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, carbone et tout. Donc, si on veut pas subir cette transition-là, puis plutôt en être partie prenante, ben il faut le faire tout de suite.
Faut agir.
D'ailleurs, j'ai interpellé, puis je trouve ça intéressant de vous le dire, j'ai interpellé Hydro-Québec à ce sujet-là parce qu'on est dépendant des énergies fossiles. Mm-hmm. Qu'on parle de l'agriculture, la foresterie, juste le déplacement des voitures ici. Il y a beaucoup de gens aussi qui chauffent encore au mazout, à l'huile. Ça c'est plus facile à changer. Là, on a déjà tout ce qu'il faut. Mais au niveau des grandes, justement, les transports lourds, tu sais, je sais pas, là, il faudrait. C'est pour ça que je pose la question, puis j'ai interpellé Hydro-Québec à ce sujet-là. Y existe-tu des camions lourds électriques? Si oui, est-ce que la technologie est assez développée au niveau de l'autonomie de la batterie pour permettre à quelqu'un d'aller faire 150 km dans le bois puis revenir? Parce que les gars veulent pas, tu sais, c'est 300 km aller-retour en tout. Il faut que tu aies l'autonomie nécessaire. Puis on sait que l'hiver, l'autonomie est moins grande parce qu'on chauffe. Donc, c'est de savoir est-ce qu'il y a des technologies en développement à ce niveau-là. Parce que tant qu'il n'y aura pas la technologie ou tant que ça ne sera pas un prix équivalent pour un camion qui utilise des énergies fossiles ou un camion électrique, ben on va continuer à prendre ce qui est le moins cher. En même temps, l'électrique, tu n'as plus tout ce qui est essence ou le diesel à payer. Mais ceci étant dit qu'on est dépendant. Fait que est-ce que les technologies existent? Sinon, ben écoute, c'est un peu... Je trouve ça un peu, pas déloyal, mais défavorable à la région parce que notre bois qu'on produit ici, ben, il est exporté partout. La nourriture qu'on produit ici est exportée également. Fait que, tu sais, pourquoi nous, on paierait le prix à petite échelle parce que notre industrie est intimement liée au carburant quand c'est les autres qui en profitent? Fait que là, nous autres, on subirait la hausse puis les autres profiteraient de tout ça. Puis il y a aussi l'affaire de la voiture électrique. 95% du temps, quand tu as une voiture électrique, tu vas la recharger à la maison. Mm-hmm. Tu peux aller au travail, tu reviens, tu recharges à la maison. Ouais. Mais dans l'esprit des gens, tant qu'il n'y aura pas beaucoup de bornes électriques, ils vont dire, écoute, moi, avant de m'acheter une voiture électrique, m'attendre qu'il y ait suffisamment de bornes. Ouais. Même si, dans les faits, on utilise très, très peu ces bornes-là. C'est plus pour les gens qui font un grand voyage, qui passent, qui arrêtent. Mais dans l'esprit des gens, c'est vraiment ça. Les gens, c'est un frein pour eux. Donc, est-ce que vous voulez déployer des bornes? Parce qu'on me dit, écoute, on va en déployer lorsque le nombre de voitures va être suffisant. C'est un peu la poule ou l'œuf. Mais si pour les gens, c'est un frein qui n'a pas suffisamment de bornes, ça freine l'objectif de l'électrification du transport. Donc, en tout cas, je suis en train d'interpeller Hydro-Québec à ce sujet-là. Mmh. Je trouve ça intéressant. Parce que justement, sinon, c'est les régions les plus pauvres qui vont subir l'effet de la transition économique. On est déjà des plus pauvres. On ne veut pas être les plus pauvres des plus pauvres. On veut au contraire pouvoir remonter la pente puis profiter de cette transition pour se démarquer, innover. Mm-hmm. Bref, vous allez en entendre parler sur nos ondes.
Tu parlais de gros camions lourds, ça existe électrique, mais je sais qu'on va avoir une ambulance à Outaouais.
Oui, oui, il y a des ambulances. Je pense que c'est Lyon, la compagnie Lyon électrique.
Je ne sais pas quand que ça va arriver, là, mais je ne sais pas si on va.
C'est un gros développement, c'est un projet avec Québec justement qui a investi là-dedans. Fait que tu sais, c'est ça, il y a des initiatives, il y a même une compagnie, c'est quoi, taille, en tout cas, je ne vais pas la nommer parce que j'oublie, là, mais qui fait des motoneiges électriques. Mm-hmm. Fait que tu sais, on s'en va là-dedans, mais il faut y aller vite, puis il faut que ça soit abordable. C'est ça aussi.
Il faut être outillé pour.
Donc, on parle de ça avec Sophie Châtel. Puis on parle aussi environnement. On reste dans le même domaine avec Émilise Lessard-Terrien, députée en Abitibi, Rouyn-Noranda, j'oublie tout le temps.
Témiscamingue.
Ouais, c'est ce Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda, quelque chose Abitibi-Témiscamingue. Rouyn-Noranda-Témiscamingue. En tout cas, c'est en Abitibi. elle est députée pour Québec solidaire. Et puis, elle est allée à la COP26. Puis justement, elle veut régionaliser le défi climatique, de nous rapprocher ça à plus petite échelle. On en a parlé la semaine dernière. Ouais. Mais je vais vous présenter l'entièreté de l'entrevue que j'ai réalisé avec elle la semaine passée, là, à ce midi à l'heure juste.
Bonne émission à écouter aujourd'hui.
Oui.
Merci, Félix. Merci.